France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, honneur au cinéma en prélude à cette série de concerts que vous propose Radio France la semaine prochaine sous la houlette de Bertrand Tavernier. Il est mon invité ce matin pour parler de la musique et du 7e art et notamment de ces merveilleuses chansons de cinéma que nous évoquerons avec Daniel Darieux, Sacha Guitry ou Julien Duvivier. Bertrand Tavernier à ce micro dans quelques instants. Mais pour commencer, après le concert du Nouvel An dirigé par le Berlinois Christian Thielemann, je vous propose une bouffée d'air musical de Berlin. Oui, c'est l'emblème musical de Berlin, aussi célèbre là-bas que J'ai deux amours, mon pays et Paris. Chez nous, c'est vraiment l'air de Berlin, comme le chant de cette chanson, extraite de l'opérette Frau Luna de Paul Linke, ici chantée par Lotte Werkmeister en 1936. Alors ça, c'était le rythme prussien. Maintenant, avant de retrouver mon invité, on va aller vers un rythme un peu plus déhanché, un peu plus ensoleillé. Que diriez-vous de commencer l'année dans un jardin brésilien ?
Por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu.
as canelas que saiu do galho. Deu dois suspiros e depois morreu.
Vem, jardineira, vem, meu amor. Não fiques triste que este mundo é todo teu. Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu.
Ça fait du bien, un petit rayon de soleil au cœur de l'hiver à Jardineira en 1939, chanté par Orlando Silva.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais je vous l'ai dit, nous avons rendez-vous ce matin avec un invité que j'avais déjà eu beaucoup de joie à recevoir l'an dernier. Et Dieu sait que nous n'avions pas épuisé le sujet musique et cinéma. C'est une des passions de sa vie qu'il a développée d'ailleurs récemment dans une série passionnante de documentaires. Il y reviendra aussi dans quelques jours en nous proposant une série de concerts à Radio France avec les formations musicales de la maison. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Bertrand Tavernier. Bonjour Bertrand Tavernier.
Bonjour.
Voilà une des belles et innombrables valses du cinéma français avec un grand compositeur, Jaubert, un grand cinéaste du Vivier, qui seront tous les deux d'ailleurs à l'honneur avec d'autres œuvres dans ce grand concert que vous nous proposez dans quelques jours ici même à Radio France.
Oui, bien sûr. Ça faisait longtemps que je me battais pour qu'on rende hommage aux compositeurs du cinéma français qui sont... Je dis toujours parmi les grands héros méconnus de cette aventure.
Dans le cas de Jaubert, d'autant plus qu'il est mort jeune à la guerre en 1940.
Et qu'une grande partie de son œuvre n'est toujours pas enregistrée, pas disponible en CD. Donc je trouve qu'il est temps de réparer cette injustice. La fin du jour, par exemple, si je veux l'écouter, je suis obligé de voir le film, mais je n'ai pas un enregistrement qui ne soit pas sur Pissoptict.
Voilà. Et c'est ce que devraient faire donc les orchestres, en tout cas, pour un certain nombre d'œuvres.
C'est déjà ce pourquoi devraient se battre les éditeurs.
Voilà.
Voir la SACEM. Et que devraient faire aussi, en effet, les orchestres. Il y a des exceptions.
On joue beaucoup de John Williams et quelques autres.
Oui, on joue énormément de musique américaine, mais qui sont toutes les partitions sont disponibles.
Oui.
Tandis que la moitié des partitions de Cosma, avant ce concert, par exemple, on pouvait pas jouer La Grande Illusion. Le film français le plus célèbre, il n'y avait pas de partition de La Grande Illusion. La partition sera relevée à l'oreille par Bruno Fontaine.
Qui dirigera ce concert,
qui
d'ailleurs,
va diriger avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Donc c'est lui qui a reconstitué une sorte de suite de La Grande Illusion. On ne pouvait pas écouter la musique de Cosma. C'est un des grands scandales. Alors que pratiquement toutes les musiques de Max Steiner... toutes les musiques de Korngold, toutes les musiques sont disponibles depuis très, très, très longtemps.
Et puis, dans votre voyage à travers le cinéma français qui vient de paraître en DVD, merveilleuse anthologie commentée du cinéma. Donc, je voulais commencer par Duvivier parce que vous faites un très beau portrait, je dois dire, de Julien Duvivier, cinéaste que je connais un peu comme tout le monde par certains films, mais dont je savais pas grand-chose, la dureté du personnage, son côté assez sombre, son perfectionnisme, etc. Et vous lui rendez un bel hommage, et pour ses liens avec la musique également, d'ailleurs.
Oui. Durant ce voyage, donc, qui est en deux parties, il y a eu d'abord le long métrage, le voyage à travers le cinéma français qui est sorti en salle, et puis après 8 épisodes, là, qui viennent
de sortir en DVD,
qui étaient conçus pour la télévision. Durant ce voyage, c'est 3-4 années que j'ai passées à côtoyer, à vivre avec des musiciens, des acteurs, des compositeurs, des scénaristes. Il y en a dont je suis devenu de plus en plus proche.
Voilà,
il y en a que j'ai aimé de plus en plus. Et Duvivier fait partie de cela. Duvivier, c'était quelqu'un, quand on peut dire j'ai commencé le film, j'avais de l'admiration pour certains films. Et puis tout d'un coup, j'ai découvert un homme derrière sa carapace, derrière ses apparences de brusquerie, voire de brutalité. Il pouvait être extraordinairement dur avec son équipe. Il se cachait des sentiments très profonds et très complexes. Une immense timidité qu'il camouflait par là. Un amour pour le cinéma qui faisait que chaque plan qu'il vivait passionnément, chaque film, et que pour lui c'était plus important. Et quand il y avait un journaliste qui venait sur le plateau, c'était un important. On le recevait pas. C'était le contraire de Renoir qui était tout en diplomatie,
social,
tout en grâce. Duvivier, quand on lui pose la question « Pourquoi est-ce que vous faites ce film ? Pourquoi je le fais ?» Ben parce qu'il faut le faire. C'est tout, voilà.
Et vous évoquiez notamment deux films beaux et durs qui sont Panique et Golgotha, avec la présence de son ami, on peut dire, Jacques Ibert, qui est très importante.
Duvivier est un de ces metteurs en scène français. Il y en a beaucoup qui avaient une passion pour la musique. Et j'ai beaucoup axé l'approche de ces metteurs en scène sur leur rapport qu'ils avaient avec des musiciens. C'était une formidable porte d'entrée qui n'avait jamais été utilisée. Et donc, Duvivier, on s'aperçoit, toujours eu des rapports très proches avec certains compositeurs. Il va faire un grand nombre de films avec Ibert. Son fils, Christian Duvivier, dit qu'il y a eu toute une correspondance entre lui et Ibert. Et Ibert, quand il fait Golgotha, Ibert est sur le premier carton du générique. Ce qui montre l'admiration que Duvivier avait pour un compositeur, et ça, c'est unique pour l'époque.
Alors, on va revenir à tous ces cinéastes que vous aimez, Bertrand Tavernier, mais on va commencer par faire un petit détour par vos toutes jeunes années et les chansons, peut-être, que vous avez aussi écoutées un peu plus tard.
C'est un sale métier que de devoir sans fin n'étant peur de bourse. Bonneteur, charlatan, montant l'air aigre fin, vendre la peau de l'ours. On demeure parfois pendant des jours entiers tout seul dans sa boutique. Et cette odeur de peau qu'il faut que vous sentiez n'est pas très romantique. La Martre Zibeline, allez, c'est plus joli sur Madame en Paccard
que quand le paradis chlorobenzène emplit le nez et les placards. L'opossum, à la fin, c'est tout aussi lassant que la loutre marine. Oh, qui dira l'ennui qui prend le commerçant derrière ses vitrines.
Quand je pense pourtant aux perceurs de plafond dont la vie est si dure, au cinéma, j'ai vu comment ces gens la font, et Dieu sait si ça dure.
À ceux qui pour avoir le respect du milieu et de belles bottines
livrent leurs sœurs cadettes à de vilains messieurs pour des prix de famine. Je me dis caressant mes descentes de lit, mes manchons, mes écharpes,
qu'il ne faut pas céder à la mélancolie et se joindre aux escarpes. Qu'un magasin vaut mieux
que de faire en prison des chaussons de lisière,
et mieux 100 fois brosser les manteaux de visan que buter les rentières.
Mieux lustrer le renard que d'aller proposer l'héroïne à temps l'once.
Mieux chez soi demeurer où sont entreposés le castor et le scanse. Et puis qu'on ait ou non
vendu son chien, Sheila, son hermine ou son phoque,
il vous reste du moins
cet amer plaisir-là, vituperer l'époque, vituperer l'époque, l'époque.
Sacrée combinaison de talents entre Aragon, Ferré, Jean-Michel Defaille pour les arrangements également. Bertrand Tavernier, vous aimez ces chansons de Ferré?
J'adore ce disque.
Ce disque d'Aragon?
Ah oui. Je trouve que c'est une réussite absolue. Il y a des tons très différents.
Oui, d'une chanson à l'autre, c'est vrai.
Il y en a qui sont poignantes. Oui. Très émouvante, là c'est extrêmement ironique,
oui.
Et ce que parfois pouvait être Aragon était là. Oui.
Mais c'est Aragon, alors il faut le dire, Bertrand Tavernier, il faut le rappeler, c'est un personnage de votre enfance.
C'est un
personnage familial pour vous.
Moi, je m'en souviens pas, j'étais trop jeune, mais il a été caché, ainsi qu'Elsa Triolet, pendant une année au moins, je sais pas. Là, en tout cas, dans la maison de mes parents, à Montchat, Champ-Beauvais.
À Lyon, donc. Hein.
À Lyon. Et plus tard, je raconte ça dans le long métrage, dans Voyage à travers le cinéma français. Quand j'étais attaché de presse de Godard et de Pierrot le Fou, je savais que Godard citait souvent Aragon.
Ah oui.
Donc, j'ai appelé Aragon aux lettres françaises. Je lui ai dit, voilà, je suis le fils de René Tavernier, etc. Je voudrais vous montrer un film.
Ouais.
Comme ça. Et 2 jours après, j'avais Elsa Triolet et Aragon qui étaient dans la petite salle de projection du Publicis et qui m'ont embrassé. Elsa m'a dit qu'elle me faisait sauter sur les genoux.
Ah, voilà, hein, c'est extraordinaire.
Les genoux, je disais, mais je suis désolé, je m'en souviens pas. Voilà. Et je leur montre le film. Et il en est résulté un article incroyable de 4 pages dans les lettres françaises sur Pierrot le Fou.
Ah oui.
De Aragon,
qui a contribué
à lancer
le film
sublime.
Ah oui.
Bah, c'est un article qui a fait le directeur des lettres françaises, un poète, un écrivain de la stature d'Aragon, consacrait 4 pages d'un hebdomadaire dont les pages étaient énormes.
Oui, c'était les lettres françaises. 4 pages
avec des photos pleines, vraiment, une défense passionné de Pierrot le Fou.
Alors, il faut dire d'ailleurs qu'Aragon, qui est un écrivain tellement doué et tellement fascinant, par ailleurs, il n'a pas grand-chose à voir avec le cinéma, qui est votre grande passion. Il n'a pas été tellement adapté.
Je me demande si la télévision n'a pas fait des adaptations de certains de ses livres, après en feuilleton, il me semble. Mais c'est vrai que ses romans sont d'une complexité.
Ouais.
On ne peut pas en tirer un long métrage. Ouais. C'est-à-dire que à l'époque des séries, ou des films qui avaient plusieurs épisodes, là on peut se lancer peut-être dans Les Cloches de Bâle ou Les Voyageurs de l'Impérial, mais sinon, comment tirer un film de cela? Et puis, c'est une figure qui faisait un peu peur.
Ouais.
Voilà.
En tout cas, je suis très heureux d'abord, je dis, de vous retrouver parce qu'on avait fait une belle émission ensemble où on avait plutôt évoqué la musique à travers vos propres films, Bertrand Tavernier. Aujourd'hui, on revient à la musique dans le cinéma français à l'occasion de la sortie de ce DVD et de ce festival à Radio France le week-end prochain. Et peut-être d'abord en quelques mots, puis on va approfondir. Quand on s'est dit, tiens, on va faire un nouveau programme ensemble, vous avez dit tout de suite, ah tiens, faisons au moins pour une partie de l'émission, un hommage à Daniel Darieux,
oui.
Qui n'en a, si j'ose dire, pas besoin, même si ça fait toujours plaisir, mais puisqu'elle est une figure archi aimée, consacrée, admirée aujourd'hui, mais quand même, voilà, vous avez tenu à...
Moi, j'ai été un peu heurté par certaines nécrologies, qui étaient très superficielles, puis qui ramenaient tout à l'occupation et à la collaboration, que le livre de Christine Leteux, qui s'appelle Continental Film, apportait un éclairage beaucoup plus complexe et intéressant
sur son voyage en Allemagne,
sur son voyage en Allemagne, etc. Mais aussi, c'est le premier long métrage en cinéma français consacrait une énorme place à Gabin.
Ouais.
Là, et dans beaucoup de débats que j'avais, je me disais pourquoi Gabin et pas une actrice. Je disais parce qu'il n'y a personne d'autre qui a fait ce qu'a fait Gabin, c'est-à-dire qu'il achetait les droits de certains livres, il prenait une option sur la Bandera en s'associant avec Duvivier, c'est lui qui achète les droits de Gueule d'amour, il permet à des films de se faire, Gabin. Darieux, non, aucune personne d'autre le fait. Mais en même temps, si j'avais dû choisir quelqu'un qui répondait à Gabin, j'aurais choisi Darieux, qui, comme Gabin, a toujours été juste et toujours miraculeuse.
Darieux, justement, pendant la guerre, dans ce film éponyme. Mais il faut dire qu'elle était déjà une grande vedette, beaucoup plus jeune, bien avant la guerre. Oui. Et tout de suite en chantant, hein, Bertrand Tavernier.
Tout de suite en chantant, mais elle dit toute sa vie qu'elle s'épanouit grâce à Henri Decoing. Oui. C'est Henri Decoing qui lui a fait comprendre ce qu'elle devait faire, avoir plus d'exigences, qui lui a élargi ses registres, qui l'a mis parfois au défi. Il y a certains films, un film comme Retour à l'aube, qui est une merveille, c'est presque un exercice de style de la part de Decoing pour prouver que Darieux peut passer d'un registre à l'autre, de la comédie heureuse, de la comédie plus tendre et mélancolique, à tout d'un coup à la satire un peu plus âpre, voire à un ton nettement plus dur et plus vachard, et au film noir et au tragique. Et il y a tous ces virages, on ne voit jamais comment elle les négocie. Elle arrive là-dedans, elle le voit, c'est une justesse qui est colossale. Moi, je la compare à certains très très grands solistes de jazz.
Il faut dire quand même, Bertrand Tavernier, vous qui avez grandi, si on peut dire, dans la suite de la Nouvelle Vague, que c'était pas vraiment une actrice très Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, elle aimait Moreau. Darieux, c'était une époque du cinéma qui ne les intéressait pas beaucoup.
Ça dépend. Il y avait des metteurs en scène, si, quand même. Becker, Truffaut a passionnément défendu Becker, Ophuls.
Et Ophuls, évidemment, avec Darieux.
Oui, donc, Darieux. Et Jacques Demy a utilisé Darieux.
Aussi, c'est vrai.
Et c'est même la seule dans les parapluies de Cherbourg qui n'est pas doublée.
Oui.
Hein, et qui chante une merveilleuse chanson de Michel Legrand. Deux prises, a dit Michel Legrand. Hein. Deux prises, et elle avait tout de suite et les lyrics et la musique dans la tête. Et il dit vraiment une perfection, un professionnalisme et une économie de moyens absolument colossale.
Il arrive aussi d'ailleurs qu'elle utilise juste le fait de fredonner, c'est que dans La Ronde, je crois, servir de lien à tout un film.
Il y a même le début de Madame II, où je me suis toujours posé la question, c'est dans la première scène, elle regarde ses bijoux, tout ça, elle dit quelques mots, elle fredonne et l'orchestre reprend ce qu'elle fredonne.
Ah oui.
Et je me dis, est-ce que ça a été fait au tournage ou en post-production? Ça a été pensé tout de suite? C'est une ouverture inouïe d'audace, puisqu'elle est en train de dialoguer avec un orchestre invisible.
Alors, Bertrand Tavernier, vous avez choisi une autre chanson, alors pour moi beaucoup moins connue, qu'on va écouter maintenant, de 1967, tirée du film Le Dimanche de la vie.
Oui, un beau film qui a été méconnu, de film de Jean Herman.
Voilà, Jean Herman.
Et c'est une chanson écrite par Raymond Queneau
et Misraki. On va l'écouter, donc c'est Daniel Darieux en 1967.
Comme un oiseau du ciel d'été, il vient, il va, se pose quelquefois, et puis soudain s'envole. Mon cœur le sait,
Voilà, hommage à Daniel Darieux qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps et qui a eu cette carrière incroyable par sa durée, sa diversité, son renouvellement constant.
Oui, à l'âge de 81 ans, elle chantait encore, de manière merveilleusement juste.
Voilà, et on la retrouve aussi, bien sûr, dans votre voyage à travers le cinéma français.
Elle conclut même un épisode sur Jean Boyer en chantant « Je ne céderai pas ma place pour un boulet de canon », qu'elle swing merveilleusement et qu'elle est très très drôle, et elle donne une version, je trouve, miraculeuse de Un mauvais garçon. Celle de Gara est très belle.
C'est la version d'origine, oui.
Voilà. Oui, mais celle de Darieux, après, elle infuse une grâce, une légèreté, un swing très léger à cette chanson. C'est, à chaque fois, ça me donne la chair de poule.
Vous évoquiez tout à l'heure, à propos du concert à venir, Bertrand Tavernier, La Grande Illusion. Je crois que c'est ce film qui a éveillé en vous la curiosité autant que l'amour de la musique et de la chanson dans le cinéma.
La Grande Illusion m'a fait découvrir la musique de film, notamment avec la musique de fin. C'était le permanent, je suis revenu deux fois, je trouvais la musique magnifique. Et je suis heureux que cette musique qui était indisponible, introuvable, va être reconstruite pour le concert à Radio France par Bruno Fontaine. Ça, c'est tout d'un coup, il y a un grand vide qui est comblé. Mais dans le même film, il y avait aussi un moment où il y avait un passage chanté entre une opérette montée par des prisonniers qui chantent une espèce de chanson bouffonne. Certains sont travestis. Hein. Et tout d'un coup, cette bonne humeur, cette gaieté est interrompue par Gabin qui dit « On a repris Douaumont ». Et tout le monde se met à entonner la Marseillaise. Et on passe de la bouffonnerie à la gravité. Et là, tout d'un coup, j'ai compris. La Marseillaise n'est pas une chanson comme les autres. Mais j'ai compris ce qu'on pouvait faire avec des chansons. Comment on pouvait passer d'un climat à un autre. Comment tout d'un coup, on pouvait changer de ton, de registre, mais aussi de sens, de signification. Ça m'a transporté.
Vous faites d'ailleurs alors tout un développement dans un des épisodes de votre voyage à travers le cinéma français, justement sur la fonction de la chanson oui. dans le cinéma français. Et vous offrez même, et vous nous offrez le plaisir d'ailleurs parfois simplement d'enchaîner quelques merveilleuses séances de chansons chantées.
Oui, hein. Oui, qui permettaient de décrire un décor, une oui. émotion, c'est-à-dire le musical.
Maria Schell, Suzy oui. Delair, Gabin, ben, Darieux.
Suzy Delair en train de chanter sa chanson permet oui. à Clouzot de décrire un petit musical, voilà, ça, ouais. dans des plans qui sont inoubliables. La série de plans sur le public, c'est absolument formidable. C'est digne de le Hitchcock des 39 marches.
Mais alors, on sait évidemment que le grand cinéma musical, y compris avant-guerre, c'est plutôt, bon, c'est chef-d'œuvre, une affaire américaine. Mais le cinéma avec une ou deux chansons comme ça qui ponctuent le film, est-ce que c'est pas quelque chose de très caractéristique du cinéma français des années 30, 40, 50 ?
C'est vrai, par exemple, qu'il y avait des films très dramatiques, mais où
tout d'un coup, la vedette chante une chanson.
Gabin chantait voilà. une chanson dans voilà. Pépé le Moko et dans, ouais. Dans La Belle Équipe, là, quand on se promène au bord de l'eau. Ouais. Chanson d'ailleurs écrite par Julien Duvivier.
Lui-même, voilà, oui. Et vous insistez aussi d'ailleurs sur l'importance des cinéastes auteurs.
Oui. René Clair a écrit un grand nombre de chansons, hein, ouais. à Paris dans chaque faubourg. C'est René Clair. Et une partie de la musique a été écrite par Jean Grémillon, par ouais. le cinéaste Jean Grémillon. Ça, c'est unique. Au cinéma français, le fait que autant de metteurs en scène, ça va de René Clair à Jacques Demy, oui. À Agnès Varda, les chansons de Claude 5 à 7, à Louis Malle même et Jean-Claude Carrière dans Viva Maria, le nombre de cinéastes, Jean-Luc Godard dans Une femme est une femme, tout ça, ont écrit des chansons.
Alors, les cinéastes ont écrit des chansons, et puis aussi, on peut dire, les musiciens de cinéma, répertoriés comme tels, ont parfois écrit des chansons en dehors du cinéma. Je pense à Maurice Jobert et à la chanson de Tessa, oui, que vous aimez beaucoup, je crois qu'on
oui,
va l'écouter.
Oui, qui était écrite pour une pièce de Giraudoux et dont j'en ai entendu beaucoup de versions, y compris une par Benjamin Biolay.
Voilà, alors moi j'ai pris la version parce que je crois que c'est la plus ancienne. Je trouve très belle aussi d'Irène Joachim, grande chanteuse. Et vous aimez particulièrement cette chanson ?
Mélodiquement, c'est une merveille.
Si tu meurs, les oiseaux se tairont pour toujours. Si tu es froide, aucun soleil ne brûlera. Au matin, la joie de l'aurore ne lavera plus mes yeux. Tout autour de ta tombe, les rosiers épanouis laisseront pendre et flétrir leurs fleurs. La beauté mourra avec toi, mon sang.
La chanson de Tessa de Maurice Jobert, ce grand compositeur mort au début de la Seconde Guerre mondiale et qui fera partie donc de ce concert hommage du 11 janvier organisé sous votre parrainage, Bertrand Tavernier. Enfin, plus qu'un parrainage, parce que comme je vous connais, vous avez dû faire très attention à l'ensemble du programme.
J'ai proposé beaucoup de titres. Je me suis battu pour, par exemple, qu'il y ait Remorque de Roland Manuel, que Dutilleux considérait comme une des plus grandes partitions du cinéma français. C'est pas mal. Ouais. C'est un avis qu'on peut écouter, quoi. Ça vaut celui de certains critiques, quoi, qui généralement ne parlent pas de musique, d'ailleurs.
Alors, je voudrais, après Darieux, qu'on fasse un deuxième petit hommage. Et là, je me fais plaisir aussi, parce que c'est une de mes idoles, comme dirait l'autre, c'est Sacha Guitry.
Oui,
et vous lui rendez un bel hommage dès le début, d'ailleurs, de votre anthologie, Bertrand Tavernier. On pourrait dire, d'ailleurs, que Guitry, lui-même, avec sa voix, est une espèce de musicien.
C'est d'ailleurs dans un programme de Laurent Delmas, ce qui est drôle, il y avait le cinéaste Christophe Honoré, au lieu de prendre une chanson, il avait pris un monologue de Guitry.
Ah oui, c'est
en
ça.
Disant, voilà, c'est de la musique.
C'est de la musique.
C'est de la musique et c'est, je trouve que c'était très astucieux.
Voilà. Oui. Et Guitry, donc, évidemment, vous l'expliquez, rythme les films aussi par sa voix d'une façon extraordinaire. Il y a aussi le témoignage d'ailleurs d'Assayas, hein,
qui dit un truc très intéressant. Il dit, c'est le flux de paroles qui crée le sujet.
Oui, c'est ça.
Et il dit, c'est ce qui rapproche Guitry de Tarantino. C'est pas l'intrigue qui impose ça. C'est les gens en parlant créent l'intrigue. Et c'est la vitesse aussi qui fait. Guitry, dit Assayas, et je trouve ça très très juste, va tellement vite que tout d'un coup, il dit des choses qui auraient scandalisé le public, mais comme elles sont dites très rapidement, les gens, le temps qu'il les ait assimilés, il est déjà ailleurs, et donc ils n'arrivent pas à suivre.
Donc c'est bien plus, contrairement à ce qu'on a pu parfois lui reprocher, c'est bien plus que du théâtre filmé.
Mais c'est beaucoup plus. Il y a d'abord une chose qui est très claire, c'est que ce théâtre dit filmé passe extraordinairement bien à l'écran, alors qu'il y a des films de la même époque qui ne le passent pas, où le jeu est compassé, et c'est lourd, c'est explicatif, alors qu'il y a des dialogues. Moi, les scènes que j'ai prises, là, des exemples de dialogues entre lui et Jacqueline de Lubac, ou entre lui et Arletty, ou avec un domestique, à un moment, quand il explique que on taxe les chèques sans provision, ce qui est normal, mais en vrai...
Je vous l'ai gardé, celui-là.
Bon, alors, je vous laisse.
On va l'écouter, mais on va d'abord écouter une des deux chansons dont Guitry a écrit lui-même les paroles pour le cinéma, justement, ce qui est dans la suite de ce que vous disiez tout à l'heure.
Il a écrit des lyrics pour beaucoup d'opérettes.
Oui, bien sûr, mais il a écrit des chansons pour ses films aussi, dans la tradition, comme vous dites, des grands cinéastes français, auteurs de chansons. Et la première, eh bien, c'est Fréhel dans Le roman d'un tricheur.
Il était mince, il était blond. Il avait des cheveux très longs qui lui tombaient sur ses oreilles, un doux visage et des yeux gais, avec je ne sais quoi distingué qu'il distinguait de ses pareils. Je veux parler des autres merlans, et Dieu sait s'il l'était pourtant. Voilà pourquoi chaque dimanche je remettais ma robe blanche pour me promener dans la forêt avec celui que j'adorais. Mais un soir du mois de février, sans qu'il eût même le temps de crier, le grand Julot l'a descendu à la suite d'un malentendu. Mais ce coup de couteau qui me l'a ravi, je peux dire qu'il a brisé ma vie, car c'est un coup qu'on masséna au coin du boulevard Masséna. Voilà pourquoi chaque dimanche je ne remets plus ma robe blanche pour me promener dans la forêt avec celui que j'adorais. Je ne remets plus ma robe blanche pour me promener dans la forêt avec celui que j'adorais.
Si j'étais le gouvernement, comme dit ma concierge, je taxerais impitoyablement les gens qui ne dépensent pas leurs revenus. Moi, je sais des individus qui ont 700 ou 800 000 livres de rente et qui n'en dépensent pas le quart. Eh bien, je les considère d'abord comme des imbéciles et un peu comme des malhonnêtes gens aussi.
Ah.
Oui, le chèque sans provision est une opération bancaire prévue au code d'instruction criminelle et d'ailleurs, c'est justice qu'il soit puni. Mais moi, voyez-vous, moi, je serais d'une identique sévérité à l'égard des provisions sans chèque, parfaitement. J'estime que l'homme qui ne dépense pas ses revenus brise la cadence de la vie en interrompant la circulation monétaire. Il n'en a pas le droit.
Voilà, Guitry.
C'est formidable, ça.
Oui,
ça,
bien pour ta dernière.
Je trouve qu'à chaque fois qu'on le voyait à la salle de montage, ça nous remontait le moral dans ça. Je trouve que c'est très, très amusant.
Et ce sont deux des rares scènes du roman d'un tricheur où le son correspond vraiment à ce qui se passe à l'image. Enfin,
oui,
ça n'est pas.
Et c'est un des rares moments où quelqu'un d'autre que lui s'exprime, qui dit « Ah !»
Oui,
qui
c'est
le type qui dit « Ah !»
Et puis Fréhel, à qui il a voulu rendre hommage aussi, oui. Au fond, c'est parce que Guitry a passé sa vie à rendre hommage aux grands artistes du musical.
Il avait déjà rendu hommage aux peintres, à des musiciens.
Oui.
Il
avait,
je monte dans ceux de chez nous, je montre un moment qui rend hommage à à Saint-Saëns.
Oui, en train de diriger.
Qui dirigeait. Il dit, d'ailleurs, je vous ferai remarquer que c'est la seule occasion que vous avez de voir un chef d'orchestre vu de face, dit-il. Ce qui est, je trouve, désopilant, moi, ça.
Mais la générosité de cette œuvre, d'une certaine façon, qui est fondée en grande partie sur l'hommage, toute l'œuvre de Guitry.
Oui. Et moi, je conclus un des épisodes sur l'occupation par une scène du film qu'il a fait alors qu'il devient aveugle, là, où il fait visiter un ami une exposition. Il y a plein d'œuvres extraordinaires. Et il dit, vous savez quel est le lien entre toutes ces œuvres ? Et son ami dit non. Il dit, elles ont toutes été faites, créées en 1871. Et il dit, l'année de la défaite, dit l'autre. Et il dit, oui, ça prouve qu'on n'était pas complètement vaincu. C'est dans Donne-moi tes yeux. Ouais. C'est un film tourné durant l'occupation, qui prône l'art comme une forme de résistance. Voilà. C'est vraiment intéressant.
Alors, on sait que Guitry, évidemment, n'a pas toujours été regardé comme vraiment un grand résistant.
On ne peut pas dire qu'il l'était. Il ne méritait pas cette espèce de hargne très injuste.
Mais l'autre paradoxe, c'est que cette nouvelle vague, dont on sait combien elle a été sévère pour le cinéma français d'avant-guerre, n'a jamais dit de mal de Guitry. Au contraire, alors on dit toujours, mais c'est parce que Guitry ne les gênait pas, il ne comptait pas dans le milieu,
ça c'est complètement faux. Il y avait une véritable admiration de Truffaut, de Godard, de Reynet. Reynet était un adorateur de Guitry. Adorateur. Donc, ça c'est totalement faux. Il n'y a pas d'histoire de gêne. Et c'est pas tellement le cinéma d'avant-guerre qu'ils attaquent. C'est même pas le cinéma de l'occupation. Truffaut écrira que sur l'occupation, il y a près de 80 films qui sont très bons ou intéressants. C'est plutôt le cinéma, et ils n'avaient pas toujours tort, le cinéma de la fin des années 40 et des années 50, qui paraissait se scléroser, ce qui n'était pas complètement faux, qu'il y avait des tas de metteurs en scène qui étaient en perte de vitesse, et c'est vrai qu'à ce moment-là...
À commencer par Carnet, oui. Et peut-être Duvivier, Clerc, etc., plus discutable.
Non, Duvivier est plus compliqué. Truffaut défend le « Voici le temps des assassins », qui est un chef-d'œuvre. Qui est un chef-d'œuvre, et il défend aussi « Peau-bouille », qui est un très 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 bon film.
Alors, on va retrouver Guitry, là, dans deux films d'après la guerre. D'abord, une petite bande-son que vous aimez beaucoup, je crois, extraite de La Poison. Et moi, ça m'a amusé parce que j'ai retrouvé la voix d'un des grands speakers de la radio de l'époque qui s'appelait Jean Toscane.
Ah, Jean Toscane, oui. J'ai grandi avec Jean Toscane.
Et puis, tout de suite après, la chanson très sombre de Mouloudji à la fin de La vie d'un honnête homme.
Durant. C'est une chanson qui intervient au moins 5-6 reprises durant La vie d'un honnête homme.
Qui rythme le film.
Mesdames, messieurs, vous allez entendre maintenant en première audition une comédie dramatique inédite en un acte de messieurs Jean-Michel Vinclair et Paul-Henri Marchepied, interprété par Anne-Marie Métavi et Jean-Victor Cabanel. Mise en onde par Albert Léon Fromageau. Bruiteur, Louis-Alphonse Raphaël. Script girl, Jeanne-Patricia Nebraco. Régisseur général, Patrick-Antoine Decoux.
La vie est une douche écossaise et ça dit bien ce que ça veut dire. Sitôt qu'une chose vous fait plaisir, faut qu'il y en ait une qui vous déplaise. Mais bien que ce soit, à mon avis, comme une espèce de complot, on ne peut pas passer sa vie à se foutre à l'eau. Le mardi soir, une femme vous aime. Le mercredi, elle ne vous aime plus. Quant à savoir ce qu'il y a des plus, elle n'en sait rien, sans doute elle m'aime. Mais bien qu'elle soit toute des girouettes et que nous soyons tous des nigauds, on ne peut pas passer sa vie à se foutre à l'eau. Il y a les amis, il y a la famille, mais faut pas en avoir besoin. Quand on copain, dès qu'on est loin, sont les premiers qui vous torpillent. Mais bien qu'il y ait tant de méchants qui vous envient, et de salauds,
On ne peut pas passer sa vie à se foutre à l'eau. Et plus que les autres, il y a soi-même sur qui on ne peut guère compter. Et l'on finit par récolter toutes les sottises que l'on sème. Mais bien qu'on soit son pire ennemi, dégoûté de soi et de son lot, on ne peut pas passer sa vie à se foutre à l'eau.
Voilà des paroles bien sombres de l'amuseur Sacha Guitry. Hein,
c'est le côté noir qu'a Guitry, qu'on trouve dans certains films ici et là, où il y a des moments tout à fait cinglants. On le retrouve dans une partie de La Poison, même c'est caché derrière une sorte d'ironie anarchiste.
Voilà. Vous aimez, en général, quand les cinéphiles tiennent quand même un peu en moins grande estime les films historiques de la fin de la vie de Guitry, les Versailles, les Champs, les Paris, les Napoléons.
Je voudrais les voir dans des copies vraiment restaurées, parce que j'ai des souvenirs de couleurs qui me plaisaient pas tellement, et puis d'un côté théâtral, il y a certains films historiques où il y avait des choses qui m'amusaient, l'idée d'interrompre le film pour demander à un acteur de reprendre le rôle dans le Désiré Clary.
Hein,
est-ce que vous voulez donner votre rôle à monsieur Intel qui va le reprendre? Je trouve que c'est très amusant. Et je sais pas, je me souviens de Remontons dans les Champs-Élysées, de la mort de Le Bon, qui est l'homme qui a inventé l'éclairage au gaz et qui se fait poignarder sur les Champs-Élysées qui ne sont pas encore éclairés et qui meurt en disant « Ah, si ça avait été éclairé, je serais pas mort » et tout ça. Je trouve ça que c'était très très bien.
Bertrand Tavernier, on avait déjà consacré une émission à la place de la musique dans vos films, donc on va pas le refaire aujourd'hui, mais quand même, parenthèse, la musique est très importante dans vos films. La chanson, proportionnellement, un peu moins.
Oh non, il y a quand même... j'ai 4 chansons originales de Jean-Roger Caussimon.
C'est vrai.
C'est pas mal.
C'est vrai.
Et
c'était dans Le Juge et l'Assassin. Hein.
Oui, j'en ai plusieurs de Jean Cosmos dans chaque film, aussi bien dans Laissez-Passer que dans Conan. Où il y en avait des masses de chansons pour les soldats.
Le Capitaine Conan, en 1996.
Oui, la Mouquère à Bébert et la de Beau Robert. Il y avait une chanson que Cosmos avait écrite, musique d'Oswald Andrea. Et dans La Vie, rien d'autre, sous les grands arbres d'Italie.
Toujours
Oswald Andrea, que chantait Maurice Barrier, très 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 bien. Il y avait une chanson écrite par Cosmos et d'Andrea.
Oui, mais contrairement à vos cinéastes favoris, vous n'en avez pas écrit vous-même.
Si, j'en ai écrit deux dans Coup de torchon et dans une qui est reprise assez souvent, qui est La Java de la masochiste par Stéphane Audran.
C'est vrai, on l'avait passé d'ailleurs dans l'émission.
C'est une chanson dont j'ai écrit les paroles. Après, j'ai plus osé, je ne sais pas pourquoi. Et c'est deux fois des musiques de Philippe Sard.
Ah ben moi j'avais envie d'en passer une autre de Philippe Sard parce que je l'adore. Et puis c'est petit coup de chapeau à Jean Rochefort qui la chante en duo, je crois, avec Jean-Pierre Marielle dans le film Des enfants gâtés.
Oui, c'est voilà, ça. C'est écrite par Jean-Roger Caussimon.
Écrite Paris encore, hein, voilà, Paris jadis. Oui. Elle est très réussie, cette petite œuvre. Ça vous convient?
Oh, hein, c'est très très bien.
Dans le Paris des Républiques, l'accordéon nostalgique a semé bien des musiques dont il reste des échos. Dans nos cœurs, il y a des rengaines dont les rimes incertaines se prenaient pour du Verlaine, du Bruant ou du Carco. Le chanteur des rues qui brame à votre bon cœur, messieurs, dames, Paris sera toujours Paname et tout ça ne vaut pas l'amour. Lorsque les télés s'allument, pauvre fantôme des brumes, s'en revient succès posthume, nous hanter au fond des cours. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le pied. piano à bretelles. Mais à chaque fois qu'on l'entend, on a les larmes aux yeux. Paris, c'est plusieurs villages, et chacun a son visage. Le 16e a son langage, et la bastoche a le sien. On y cause en argomuche, et Pantin se dit pantruche. Mais ni le montant, mais ni le muche, et le temps n'y change rien. Moi j'aime bien la place des fêtes, et les choses étant bien faites. Pas loin du tabac buvette, y a l'église et la mairie. Moi je rigole quand je pense à ceux qui partent en vacances, en Bretagne ou en Provence. Rien ne vaut l'air de Paris. Et allez donc, en voilà ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles. On se croirait au printemps, le ciel est toujours bleu. On sait bien de par le monde que Paris c'est une blonde, et les visiteurs abondent, il en vient de tout pays. La tour Eiffel les étonne, le musée Grévin les passionne, et la Seine enfin leur donne l'attrait de ses quais fleuris. Dans la lumière irisée, ils s'en vont l'âme grisée, le long des Champs-Élysées, et comprennent que Paris restera quoi qu'il advienne la capitale souveraine, la seule, l'unique et la reine, par le cœur et par l'esprit. Et allez donc, en voilà une tournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, dans le genre exaltant on ne pourrait pas faire mieux.
Et Bertrand Tavernier me précisait que c'était Jean-Pierre Marielle qui sifflait
à la fin,
de cette chanson.
Qui sifflait de manière très, très adroite.
Très professionnelle.
Là, il battait Micheline Dax.
Le film s'appelait Des enfants gâtés. C'était en 1977, Bertrand Tavernier. Vous me racontiez aussi, pendant qu'on écoutait la chanson, combien vous aviez été marqué tout jeune par toutes ces balles qui étaient annoncées dans les petites affichettes dans le métro avec tous les musiciens de l'époque, justement.
Oui. Et certains étaient là enregistrés cette chanson, en disant, je me souviens des affiches annoncées. Pierre Spears, Jerry Mango, Aimé Barelli, qui était le mari, je crois, de Lucien Delisle.
Absolument.
Donc j'avais plein de noms de ces musiciens qui jouaient constamment, qu'on entendait à la radio, aussi bien sur Radio Monte Carlo, Radio Luxembourg et France Inter. Je ne sais pas si ça s'appelait France Inter.
Ou Paris Inter, Paris peut-être, Inter, à ce moment-là. Voilà. Mais en tout cas, la France, et en tout cas Paris, est évidemment une ville de musique et de chansons, et l'a longtemps été peut-être plus que d'autres encore. Et alors c'était aussi, je voulais, troisième chapitre, peut-être qu'on parle un peu d'opérette et de cinéma, même si c'est pas vraiment au cœur de votre sujet dans Voyage à travers le cinéma français, mais je me rappelle des conversations avec Alain René qui était passionné par toutes ces adaptations qu'on faisait dans les années 30, qui étaient plus ou moins réussies, mais qui lui ont quand même donné envie d'en faire une à la fin de sa vie, avec l'opérette Pas sur la bouche. Ça, c'est un chapitre qui vous intéresse, Bertrand Tavernier?
Oui, j'essaye toutes de les voir. Je trouve que très souvent, les adaptations cinématographiques des opérettes sont décevantes.
Oui, c'est vrai.
Il manque, les chansons sont raccourcies.
Dédé, c'est pas mal quand même.
Dédé, c'est bien, il y a Darieux qui est très... c'est là où il y a Dans la vie, il ne faut pas s'en faire.
Exactement, et puis il y a un ballet des syndicalistes qui est assez drôle.
Oui, oui. Voilà. Mais il y a surtout, je trouve, moi je rends hommage aux films qui ont été écrits directement pour l'écran, qui ne sont pas des adaptations, qui sont les films de Jean Boyer.
Oui.
Et qui ont longtemps été des films méconnus. Enfin, ils ont été défendus par des gens comme Jacques Lourcel. Mais par exemple, Prends la route est un film avec énormément de chansons, toutes formidables, qui sont de Boyer et Van Paris, et Un mauvais garçon aussi, qui comprend plein de chansons, toujours de Boyer et Van Paris. Il y a une œuvre considérable de Boyer Van Paris.
C'est, Philippe Collin, d'ailleurs, en avait rassemblé un certain nombre dans un film.
Cinéfolie.
Cinéfolie, voilà, qui est un hommage au cinéma chantant de l'époque.
Oui, où il y avait des moments très, très savoureux. Quelquefois, il y a des films où il y a beaucoup de chansons, comme, mais il y en a où il y a certains films avec une chanson, comme Circonstances atténuantes, avec la chanson qui, comme de bien entendu, et qui est improvisée. littéralement sur le plateau, c'est un moment, Boyer qui dit, on a plein de chanteurs là, qui sont en ce moment en train de tourner, on n'a pas de chanson. Pourtant, il me semble qu'on a un thème qui est joli, Vent Paris, c'est là, oui, je vous le dis. Donc Boyer s'en va et revient 10 minutes après, et il a les paroles de la chanson.
Oui, c'est ça.
Et puis voilà, c'est ajouté dans le film, et c'est très bien filmé, un plan de séquence où on passe d'un couple à l'autre, comme ça, et avec des paroles désopilante. Hein,
alors, Vent Paris, d'ailleurs, avait sans doute lui-même aussi un sens du cinéma, parce que quand on voit comment il a été sollicité, justement, par Boyer, par René Clair, par quantité d'autres, vous lui rendez hommage dans votre
film. Oui, on le voit d'ailleurs, on voit par moments, il est extrêmement savoureux. C'est un de ceux qui a été interviewé, Vent Paris. Par exemple, il dit que René Clair lui donne un travail, il doit composer les morceaux à partir d'une gamme ascendante.
Ah oui.
Mais il faut que ça parte de là.
Ah oui.
Plusieurs cinéastes donneront comme ça des cahiers des charges, les compositeurs. Ah. Misraki raconte que Becker lui disait que pour Montparnasse 19, il fallait au départ, en tous les cas, n'utiliser que 4 notes.
Ah oui.
Beaucoup de cinéastes français, je pense, jouent un rôle très important. Quelqu'un comme Henri Decoin, alors que j'essaye de réhabiliter, et je montre, en passant par la musique, on trouve des tas d'exemples passionnants. D'abord, qu'il fera 2 fois appel à Henri Dutilleux, ce qui n'est pas rien, et qu'ensuite, il travaille avec Henri Sauguet, avec Cosma, avec plein de musiciens, et que même dans un film que j'ai vu récemment, qui est La Chatte, là, à Lyon, il n'y a pas de musique de film. Il demande à Cosma de n'écrire que des sons, avec des ondes Martenot, mais aucun thème mélodique, ce qui est très audacieux pour l'époque.
On va retrouver tout de suite, Bertrand Tavernier, ben justement, un chanteur d'opérette de l'époque qu'adorait Alain René, et je crois que vous aimez bien aussi, c'est Koval, dans C'est dégoûtant mais nécessaire, tiré d'une opérette qui a d'ailleurs été adaptée au cinéma, qui s'intitule Toi, c'est moi.
Oui, oui, vous admettez... le film est un peu décevant. Hein. Ouais.
La probité n'est pas chose très courante. Bien qu'on soit très honnête et très droit, bien souvent malgré soi, il faut que l'on mente. Au percepteur, sur son honneur, on doit déclarer ses rentes. En est-il beaucoup, soit dit entre nous, qui déclare tout, il serait fou. C'est dégoûtant mais nécessaire, on ne peut pas être sincère. Il faut être un petit peu faussaire, masquer et truquer pour ne pas trinquer. Surtout l'état de ses biens, frauder l'état n'est pas bien. Mais comme on sait que l'état c'est nous, vous pensez si l'on s'en fout. C'est dégoûtant mais nécessaire, on ne peut pas être sincère. On finirait dans la misère si l'on déclarait la vérité vraie. Même étant de bonne foi, il faut chaque fois tourner la loi, que le contribuable exemplaire, qui ne l'a pas fait au moins une fois, lève un doigt. L'humanité ne peut pas compter que des paroissiens modèles. Bien qu'on soit très honnête et très droit, bien souvent malgré soi, la vertu chancelle. À la mairie, femme et mari font serment d'être fidèles. En est-il beaucoup, soit dit entre nous, qu'il soit jusqu'au bout, il serait fou. C'est dégoûtant mais nécessaire, on ne peut pas être sincère. Il faut être un petit peu faussaire, truquer et duper pour n'être pas chipé. Quand elle est encore très bien, tromper sa femme n'est pas bien. Oui, mais lorsque d'une autre on est fou, vous pensez si l'on s'en fout. C'est dégoûtant mais nécessaire. On ne peut pas être sincère. Votre ménage serait fichu par terre si l'on déclarait la vérité vraie. Quand on est un bon époux, il faut faire surtout ses coups en dessous, que l'homme ou la femme exemplaire, qui ne l'a pas fait au moins une fois, lève un doigt.
Koval, qui était spécialisé d'ailleurs notamment dans les rôles d'anglais ou d'américains dans les opérettes de l'époque. Ici, c'est dans Toi, c'est moi dont fut tiré un film par René Guissard, honnête artisan, on dirait, de l'époque.
Mais c'est une très, 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 très bonne opérette, excellente opérette, qui contient cette chanson mythique qui est sous les palétuviers.
Bien sûr.
Avec Pauline Carton.
En duo avec Koval dans le disque, mais pas dans le film, malheureusement.
Mais cette chanson, je l'adore. Moi, là, c'est dégoûtant mais nécessaire. Là, c'est une chanson qu'on peut dédier au ministre de l'économie.
Alors,
dans
en tout
taxation,
cas,
dans cette période où on parle de taxes.
Bertrand Tavernier, je rappelle que vous parrainez, vous avez co-organisé le prochain week-end à Radio France avec deux grands concerts, un du Filar, un du National consacré à la musique de cinéma. Le concert, donc, on a déjà évoqué de vendredi prochain, qui sera plutôt autour des compositeurs dits de cinéma, comme Misraki, Vamparis, Jaubert, Delru, Cosma, etc. Et le second concert, le lendemain, avec l'Orchestre National, avec plutôt des compositeurs étiquetés classiques ou modernes, enfin Auric, Dutilleux, Français, Honegger, Ibert, mais qui ont tous aussi écrit pour le cinéma.
Et Grunenwald, puisque j'espère on aura la vérité sur Bébédon, j'ai Grunenwald qui était un musicien classique, qui est un organiste classique et qui a écrit plusieurs musiques de films formidables, dont La vérité sur Bébédon, qui est une musique qui anticipe sur Philip Glass. C'est une musique qui a des années d'avance.
Ah oui,
Des années d'avance. C'est un ostinato écrit pour piano avec accompagnement d'orgue et de petites formations de cordes qui répète les mêmes notes avec une rythmique et qui scande de manière formidable la dramaturgie de ce film très noir, très dur, très âpre. C'est une musique magnifique. Et Louis Dunoyer, qui s'occupe de la transcription, me disait...
Dunoyer de second acte, qu'on connaît aussi par ses comédies musicales, il y a quelques années très réussies.
Oui, et il me disait, tu as raison de citer Philip Glass, sauf que les harmonies de Philip Glass sont basiques, celles de Grunenwald sont extraordinairement sophistiquées.
Alors ben là, vous voyez, vous me donnez très envie d'entendre ça, et puis de retrouver aussi Honegger, il a écrit quantité de musique de film.
Honegger était passionné par la musique de film. Celle de Regain est magnifique, celle des Misérables est splendide. Il y en a beaucoup. Moi, j'aurais aimé aussi inclure, mais on peut pas, les programmes ne sont pas extensibles, Un revenant, la musique d'Un revenant, où on le voit dans le film de Christian Jacques, il y a Jouvet s'adresse à Honegger, alors Honegger, on est prêt pour la répétition, et on voit Honegger qui arrive sur la scène et qui dialogue avec Jouvet. C'est un des films où on voit Honegger. Et à noter que la plupart des grandes musiques d'Honegger, notamment celle des Misérables, était pour le film dirigé par Maurice Jaubert. Honegger demandait que ce soit Jaubert qui soit le chef d'orchestre.
Voilà, alors ça c'est tout le programme, ou une partie du programme, en tout cas du concert du 12 avec l'Orchestre National. Vous m'avez suggéré, Bertrand Tavernier, vous m'avez fait plaisir, entre opérette et cinéma, qu'on fasse un petit salut à un compositeur mort à Auschwitz qui s'appelait Marcel Lattès, qui a écrit pas mal d'opérettes et aussi des musiques de cinéma.
Celle de la comédie, la merveilleuse comédie de Maurice Tourneur, écrite par Carl Orim, qui s'appelle Avec le sourire, qui est un film que je trouve désopilant. C'est ce film qui contient la formidable interprétation du chapeau de Zozo par Maurice Chevalier.
Mais bien sûr, qui est dans votre anthologie, un morceau.
Qui est un morceau absolument prodigieux. Et Marcel Lattès, qui a écrit... Alors, moi, une opérette que j'ai jamais entendue, que j'ai découvert grâce à votre livre.
Sur Fernand Auxet.
Fernand Auxet, livre qui m'a passionné. Et donc, je vous ai demandé une faveur, c'est de pouvoir écouter
une des chansons de
cette opérette.
Le Diable à Paris, le Diable qui revient à Paris en 1920. Il est parti à l'époque de Faust, 50 ans avant, et il est affolé par les mœurs tellement délurées des Parisiens, à tel point qu'il va préférer regagner l'enfer que de rester dans cette ville infernale. Et alors, le Diable ici chanté par Dranem, ouais, nous explique tous les démêlés qu'il a avec son épouvantable épouse Proserpine.
N'est plus sur le dos, mon épouse, quel bonheur! Elle ne peut plus m'entendre. Je vais donc enfin pouvoir crier sans peur les jolis mots tendres que j'ai sur le cœur. Proserpine, Proserpine, vieille chipie, vieux hibou, vieille ruine, vieille fouine, vieille toupie, vieux coucou. Proserpine, Proserpine, vieille noix, vieux nougamou. Proserpine, Proserpine, je n'en peux plus d'être ton époux. Quand sans dire un mot, pauvre diable, on a souffert mille et une injures, tortures, blessures, quand toute votre vie n'a été qu'un enfer. C'est bon, je vous jure, de chanter cet air. Proserpine, Proserpine, vieille chipie, vieux hibou, vieille ruine, vieille fouine, vieille toupie, vieux coucou. Proserpine, Proserpine, vieille noix, vieux merlan mou. Proserpine, Proserpine, n'en peux plus d'être ton époux. Mais t'imagines pas que te le dire en français, cela me suffise, afin de te montrer à quel point je te hais. Permets que je te le dise aussi en anglais. Pioserpine, Pioserpine, you sallow witch, you damn cat, stupid goose, lose old louse, chevery shrew, rotten hat. Proserpine, Proserpine, crazy cramcra, dirty smell. Proserpine, Proserpine, you can't shoot on Cotoel. Ah, ça y est. Mais je trouve encore que c'est bien trop charmant. La langue de Shakespeare, 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 rien que pour mon plaisir, permets également. Chérie, de te le dire aussi en allemand. Proserpine, Proserpine, vieille gibi, vieux hibou, vieille ruine, vieille fouine, vieille toupie, vieux gougou. Proserpine, Proserpine, vieille noix, vieux fromage mou. Proserpine, Proserpine, j'en peux plus d'être dans les bouts. Mais l'angueux de Goethe me paraît un peu gnoll. Pour te dire ce que je pense, ce que je pense, ce que je pense, j'ai besoin d'accent pour me fiche de ta fiole. Permets que je te le danse comme un espagnol. Proserpine. Olé, olé. Olé, honda, honda. Olé, olé, olé. Proserpine, Proserpine. Vieille chipie, vieux hibou. Vieille ruine, vieille fouine. Ça peut plus t'être dans les bouts. Proserpine, Proserpine. Vieille chipie, vieux hibou. Vieille ruine, vieille fouine, vieille toupie, vieux coucou. Proserpine, Proserpine, vieille noix, vieux nougamou. Proserpine, Proserpine, je n'en peux plus d'être ton époux.
Voilà le grand Dranem en 1927, à l'occasion de Diable à Paris, opérette de Marcel Lattès.
Et Albert Villemette, parole pas très MeToo. C'est les paroles. Mais c'est extrêmement amusant.
Oui, c'est très, très
et bien. La version anglaise, le personnage en soi-disant allemand,
oui,
qui
aussi,
n'est pas
oui.
en allemand, qui consiste juste à dire Proserpine, je dois, est quand même assez.
Ça c'était les années folles et le retour de Dranem, d'ailleurs, qui avait été chanteur de café-concert, puis d'opérette, puis vedette de cinéma à toute fin de sa vie, Bertrand Tavernier. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin en préfiguration du week-end prochain à Radio France, consacré donc au cinéma français, à la musique dans le cinéma français. Vous êtes un homme toujours très actif et très occupé, j'imagine, entre l'Institut Lumière, le week-end à Radio France, le DVD qui vient de paraître, qu'on a évoqué, un futur film.
J'espère. Vous savez, la vie d'un metteur en scène, ouais. elle se passe à attendre que des financiers consentent à lui donner un peu d'argent. Et c'est souvent très dur. Il faut attendre leur bon vouloir un peu. Voilà.
Vous ne savez pas encore qui sera le compositeur de votre prochain film, j'imagine.
Ce sera peut-être un Américain que j'aimerais bien peut-être travailler avec Marco Beltrami,
oui.
que j'avais, ou peut-être, si c'est français, avec Bruno Coulet.
Avec Bruno Coulet, voilà, vos complices déjà depuis un certain temps. Je précise aussi qu'au cours de ce prochain week-end, eh bien, il y aura une création de l'ancienne lauréate du prix de musique de film France Musique, Anne Dudley. Et puis également le prix d'honneur de cette année qui va être remis à Alexandre Desplat, qui témoigne de la vitalité de la musique de cinéma française à travers le monde.
Bertrand Tavernier. Oui, ça, c'est un des compositeurs français. Il y en a eu d'autres avant lui.
Mais ça continue, je veux dire.
Oui, il continue la tradition de gens comme Maurice Jarre, comme ça.
Et pourquoi les Français sont si importants à Hollywood pour la musique ?
Peut-être parce que ce sont des très bons compositeurs.
Oui.
Toutes les grandes musiques doriques. Ouais. Sont moins pour des films français que pour des films anglais ou américains.
C'est vrai, c'est vrai.
Il y a eu un attrait de certains. Delerue.
Oui, oui.
Delerue a écrit des musiques magnifiques pour John Huston, pour un certain nombre de
et Michel Legrand.
Oui, et évidemment Michel Legrand avec le fameux Les Moulins de mon cœur, mais d'autres films.
Et ça continue en tout cas.
Y compris des films de Clint Eastwood, et y compris on trouve son nom au générique d'un vieux film d'Orson Welles qui sort en ce moment, enfin qui est The Other Side of the Wind.
Voilà.
Là, c'est musique de Michel Legrand.
Bon, ben, merci en tout cas de nous faire partager tout cet amour et cette connaissance merveilleuse du cinéma, Bertrand Tavernier, et notamment de la musique au cinéma. On va se quitter avec les frères Jacques, une chanson de Gaby Verlor qui s'appelle La Branche.
Ah, Gaby Verlor, j'ai fait plusieurs fois travailler sa fille, qui est une très bonne actrice, s'appelle Catherine Verlor, qui jouait pratiquement, je crois qu'il n'y a que deux metteurs en scène qui l'ont dit, c'est Jean-Charles Taquella, et c'est là où je l'avais vu, j'avais trouvé. Et moi, je lui ai donné plusieurs rôles, aussi bien dans Le Jugé Assassin, que dans La Vie, rien d'autre. Et là, c'est une chanson de sa mère qui avait écrit « Déshabillez-moi », sa mère, Gaby Verlor.
Également. Elle est jolie, cette branche.
Mais c'est une très, très jolie chanson.
Eh bien, merci pour tous ces choix et à bientôt, j'espère, Bertrand Tavernier.
Le soleil est venu se poser ce matin sur la branche. Un oiseau est venu se baigner de soleil sur la branche. Elle était si fragile, si ténue, qu'elle ployait cette branche. Chaque instant, je croyais qu'elle allait se briser cette branche. C'est comme ça qu'on vit sa vie. On est sur une corde raide. À chaque instant, on voit qu'elle cède. Et puis un peu de soleil lui et on oublie qu'elle peut se briser à toute heure brusquement cette branche sur laquelle on se tient, on s'accroche. Et l'on glisse et l'on flanche. Un oiseau est venu se poser ce matin sur la branche. Il se baigne au soleil doucement, insouciant se balance sur la branche. C'est comme ça qu'on vit sa vie. On est sur une corde raide. À chaque instant, on voit qu'elle cède. Et puis un peu de soleil lui. Et on oublie.
« La Branche, une chanson des frères Jacques, choisie donc par mon invité aujourd'hui, Bertrand Tavernier. Je ne saurais donc trop vous recommander de regarder Voyage à travers le cinéma français, cette série de documentaires qu'il a réalisé et qui est parue donc en DVD. C'est 3 DVD qui reprennent les 8 épisodes de ce voyage où il est beaucoup question de musique. Et puis bien sûr, donc le week-end prochain, plusieurs concerts de l'Orchestre Philharmonique, de l'Orchestre National autour de la musique de film. C'est à la Maison de la Radio. Et d'ailleurs, vous trouverez toutes les informations sur le site maisondelaradio.fr. J'avais envie de Kreisler et de musique viennoise, alors j'ai choisi le Caprice viennois de Kreisler, merveilleusement joué par Josef Hasid, ce violoniste prodige mort à 26 ans, dont Fritz Kreisler disait justement « Un Heifetz né tous les 100 ans, un Hasid tous les 200 ans », c'est dire le talent qu'avait ce jeune musicien.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis aussi dans le genre oublié, tiens, on parle souvent à propos de chansons réalistes, évidemment, de Damia, de Fréhel, de Lucienne Boyer, de quelques autres. On parle plus rarement, c'est dommage, sans doute parce qu'elle est morte assez tôt et trop tôt pour enregistrer beaucoup de disques avec des enregistrements modernes. On parle plus rarement d'Emma Liebel, qui fut pourtant l'une des plus grandes chanteuses réalistes entre les deux guerres. Je vous propose de la retrouver dans Mon Tour de Java.
Samedi soir, en quittant leur turbin, il y a des anciens qui s'en vont prendre un bain, ou l'apéro, ou dans le métro, la montre en or d'un monsieur comme il faut. Il y en a qui prennent une loge pour l'opéra, d'autres pour leur rue, c'est pas si matin ça. Bref, chacun prend, selon son rang, quelque chose de chouette, de nénette, un hydran. Et même l'autre jour, il y a un de mes bons potos qui a pris sur le vouloir des totos. Et ouais, tous les soirs, elle se relève, c'est qu'un saut. Il prend du poids, la petite rue qui est derrière. Le troisième pont du boulevard, c'est Bastos. Il y a un dans un signe de bouture qui est pépère. La sophoque est en gros, son palmise. Les costauds, ils cassent en bras de chemise. On lit un bol de pinaire et l'on va comme une réussite faire son tour de Java. Il y a des ménages dont l'accord est parfait. Que monsieur veut, madame se suit bluffée. C'est le paradis, comme je vous le dis. Juste au moment où ça chauffe au bourbis. Alors c'est drôle comme ça sent tout autour. Il y a plus de ma crotte, ma poupée, mon petit loup. On voit valser dans l'escalier. La soupière, le buffet et le saladier. Moi, si que je vois le petit bout d'un pétard, la colère me prend et d'arbard. Je vois tous les soirs, elle se reste qu'un saut. Et je prends vivement la petite rue qui est derrière. Le troisième banc du boulevard, c'est d'assaut. Viens dans un signe, je vous jure qu'elle est pépère. Là, le propre qui est en bonne compagnie. Les costauds, ils gagnent sans bras de chemise. On lit un bol de pinaire et l'on va comme une réussite vers son tour de Java. Oh, tout paraît voir au cas qu'il m'arriverait de quitter la terre, ce serait avec regret. Mais tout ce que je veux, c'est que tous ceux qui me suivront ne gueulent pas sacre bleu. C'est déjà pas polichant ce truc-là. Si tout le monde y fait la gueule avec ça, je connais mon cœur au bout d'une heure. J'en aurais marre des enfants et des fleurs. Pour m'embêter, si réellement la terre soit finie, il n'y a vraiment pas besoin de moi. Il voit tous les soirs sur la fée grasso. Il prend du monde, la petite rue qui est derrière. Le troisième pont du boulevard, c'est Basso. Viens dans le signe de bouture qui est pépère. Là, on frotte le tango sur sa bise. Les costauds, ils gagnent son bras de chemise. On lit un vol de pilaire et l'on va comme une ravie papine faire son tour de chapin.
Mon tour de Java, Java créé sur scène en 1923 par Emma Liebel, qui l'a enregistré la même année. Il s'agit donc d'un enregistrement acoustique, mais tout de même d'assez bonne qualité.
Se rompió tu reloj, ya no quiere caminar. Tu relojito de mano ya lo tienes que arreglar. Se rompió tu reloj, ya no quiere caminar. Tu relojito de mano ya lo tienes que arreglar. Dale, dale, dale suave. Aprieta, aprieta el tornillito. Mueve, mueve las agujas. Tu reloj ya no quiere caminar, se rompió. Dale, dale, dale suave. Aprieta, aprieta el tornillito. Mueve, mueve las agujas. Tu reloj ya no quiere caminar, se rompió. Tu reloj ya no quiere caminar. Esta noche yo me voy a bailar el cha-cha-cha. Tu reloj ya no quiere caminar. Esta noche yo me voy bailar el cha-cha-cha. Dale, dale, dale suave. Aprieta, aprieta el tornillo. taqui al compás del cha-cha-cha.
Voilà, on était tout à l'heure au Brésil, on termine à Cuba avec El Relojito de Mano, excellent cha-cha-cha par l'orchestre de Julio Gutiérrez. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Thibaut Nassim Ben et Antoine Giraud, réalisation Perrine Mingui. On a rendez-vous bien sûr samedi prochain, j'aurai la joie de recevoir Hervé Niquet. Mais pour l'instant, sur France Musique, vous avez rendez-vous avec guitare-guitare Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.